Oye, André, Ismael, o Castelo de Gansal. Se repite totalmente.
Oye, tenente, como decía, o
bonjour à tous et bon début de semaine et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. C'est lundi 8 août 2011, nous passons avec vous sur l'exercice du petit commerce en RDC. Le 26 juillet dernier, les vendeurs et marchands congolais de la ville de Kinshasa ont manifesté à travers quelques artères de la capitale réclamant l'exclusivité du petit commerce. Ils ont dénoncé ainsi la pratique de ces commerces par les expatriés qui sont, selon la loi, considérés comme grands investisseurs. Ces vendeurs et marchands affiliés à plusieurs associations syndicales de leur secteur ont déposé un mémorandum à la primature. De son côté, le Premier ministre s'est penché sur la question avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, FENECO, et de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, pour dégager des pistes de solutions en vue d'accompagner l'exercice du petit commerce par les nationaux. Rappelons que l'ordonnance loi numéro 79-021 du 2 août 1979, complétée par l'arrêté interdépartemental numéro 0029-80 du 7 avril 1980, réserve l'exercice du petit commerce aux seuls nationaux. Que proposez-vous pour faciliter aux Congolais et les accompagner pour assurer l'exercice du petit commerce? Nous avons en ligne Michel Somoué, administrateur délégué de la Fédération nationale de petites et moyennes entreprises du Congo FENAPEC. Kitumputu est à la réalisation de cette émission mise en œuvre par Eric Sidiakala et Léonard Moulambala Supervi. Pierrot et la Mégie vous la présentent, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de Didier David.
081-893-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir par rapport aux mesures d'accompagnement des nationaux dans l'exercice du petit commerce. C'est notre sujet de ce jour. 081-893-15, mais vous pouvez aussi également le faire en envoyant un message électronique à pa@radiocapi.net. Notre invité est déjà en ligne, monsieur Michel Somme, bonjour.
Bonjour,
monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter ce sujet avec les auditeurs. Nous parlons de l'exercice du petit commerce, hein, qui est parti de la grogne de vendeurs et marchands et de la ville de Kinshasa le 26 juillet dernier, réclamant l'exclusivité du petit commerce parce qu'ils ont remarqué qu'aujourd'hui le secteur est aussi envahi par les expatriés. Alors, bien avant de revenir à la manifestation de ces jours, essayons d'abord de jeter un coup d'œil en arrière pour dire comment peut-on expliquer la présence des expatriés dans le petit commerce. Et vous, qui êtes dans l'entrepreneuriat avec les PME, et c'est depuis combien de temps que cette situation dure par rapport au texte des lois?
Bon, depuis combien de temps, je ne suis pas capable de vous donner la date à partir de laquelle les expatriés se sont mêlés du petit commerce, mais il faut savoir que qu'il existe une loi, et vous avez bien la rappeler, depuis 1979, la loi 0721 du 2 août 1979. Si cette loi a été prise, c'est que, avant la loi, il y avait des étrangers qui se mêlaient du petit commerce. C'était donc pour obliger les nationaux que la loi a été ainsi prise. Alors, pourquoi les étrangers se mettent du petit commerce au Congo? C'est vraiment parce que la nature a horreur du vide. Lorsqu'il existe des poches ou des opportunités d'enrichissement rapide, tout opérateur économique rationnel se jette à l'eau pour tenter sa chance. C'est normal. Et cela vient du fait que l'on sait peu même le marché lui-même. La plupart des produits qui font l'objet de ce petit commerce sont essentiellement des produits importés. Et donc ce sont les producteurs de ces produits qui se mettent en chaîne depuis la production jusqu'au petit commerce de taille, qui veulent se retrouver eux-mêmes d'une façon ou d'une autre. étant donné que les opérateurs économiques congolais ont accusé une certaine inertie. L'économie nationale, elle est inerte. Ce ne sont pas les opérateurs qui sont inertes. C'est l'économie nationale qui souffre de l'inertie et qui fait qu'elle laisse des économies d'échelle assez importantes qui donnent l'occasion à des étrangers de ne pas continuer à laisser vide un espace de terre important. C'est ça la réalité qui se fait dans notre pays. Pourquoi il y a des poches vides? Simplement parce qu'il n'y a pas eu de la part de l'État responsable des mesures viables de facilitation de l'industrie pour la création d'une industrie organique, comme on appelle une industrie locale viable, qui devrait mettre sur le marché des produits demandés par les Congolais, mais des produits venant des Congolais. Alors, sachez que nous avons accusé une dépendance excessive vis-à-vis de l'extérieur, y compris en matière de financement. Pour que les produits que nous commercialisons arrivent chez nous, il faut qu'ils soient financés. Il faut qu'il y ait des systèmes capables de donner des crédits aux opérateurs économiques. Le système dans notre pays est lui aussi inerte. Donc, pour accéder à des crédits étrangers qui sont importants, il faut être soi-même étranger. Et l'étranger, donc, on trouvait qu'au Congo, il y avait beaucoup d'opportunités de faire du profit. Et il suffisait d'avoir un peu de crédit de leur banque d'origine, de pays d'origine, et d'avoir un statut agréé par les Congolais, notarié par les services du Congo. Et automatiquement, on a des crédits, on vient investir au Congo et on vend des aiguilles, on vend des beignets. Ça, c'est un problème que, je pense, incombe totalement à l'État. Parce que non seulement l'État n'a pas facilité la tâche aux opérateurs économiques congolais, qui sont pourtant pleins de volonté et plus de désir de travailler, mais en même temps, l'État a un examen trop large de la qualité des étrangers qui immigrent chez nous. Ce sont des chômeurs sous d'autres cieux que les pays d'origine nous exportent au Congo. Et ils viennent au Congo pour réduire le taux de chômage dans leur pays, réduire le taux de misère dans leur pays. On leur donne le minimum possible de moyens de financement pour venir se rechercher ou se retrouver, si vous voulez, voilà, dans des pays racistes comme la RD Congo.
Merci, on vous garde. On vous garde en ligne. Le temps d'évoluer ensemble avec les auditeurs, dégager les pistes de solutions pour voir comment encadrer les nationaux dans ces secteurs, qu'ils soient ici à Kinshasa, qu'ils soient en Mbujimayi, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, à Chikapa, qu'ils soient à Badolité, partout, hein, comment on peut dégager les pistes de solutions pour pouvoir encadrer les Congolais dans ces secteurs. Appelez-nous 081-890-6315. Arsène Kachikwit et Théodore Itakananga, nous allons revenir à vous, monsieur, pour commenter ce sujet autour du petit commerce et surtout les pistes de solutions pour accompagner les Congolais dans cet exercice.
Parole aux auditeurs.
Arsène, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
On sait déjà, le constat sur le terrain, il est réel à Kinshasa, tout comme ailleurs. On s'est déjà rendu compte que cela existe ainsi. C'est pour cela même que les vendeurs de Kinshasa et les marchands ont pu faire cette démonstration sur les rues de Kinshasa le 26 juillet dernier. Mais si nous pouvons nous atteler aux pistes de solutions pour pouvoir les encadrer, et parce que la loi, elle existe déjà, qui dit que cet exercice revient ipso facto aux nationaux. Mais la loi n'est pas appliquée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à pouvoir accompagner les nationaux dans l'exercice du petit commerce?
Ok, M. Piro. Il est regrettable, vraiment regrettable, parce que l'époque où on se disait Zaïroa, Toro, Zimbisa, Atala, Europa, Toro, Zimbisa, Atala, America, Toro, Zimbisa. Donc l'orgueil national est par terre, papa. L'orgueil national est par terre. Pourquoi? Parce que nous sommes allés jusqu'à un certain niveau où même ceux qui sont appelés chez eux intouchables, chez nous, ils deviennent patrons. Mais l'orgueil national, mon cher ami, c'est par terre. Nous devons faire un effort pour nous sentir heureux chez nous. Nous devons faire un effort, monsieur, parce que le petit commerce est réservé aux nationaux. Quitte maintenant aux nationaux, à ceux qui se disent « j'ai été élu par » de se mettre debout, de faire voir qui est le Congolais. L'orgueil national est par terre, M. Pierrot. Quand je suis en train de parler de ça,
j'ai envie de m'exposer.
Oui, bon, c'est vrai, Artem, on comprend la grandeur du problème. Mais là, on a besoin de sécuriser les Congolais qui sont dans les petits commerces. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour les sécuriser et leur permettre de s'épanouir dans ces commerces-là?
Concrètement, M. Pierrot, c'est simple. C'est très simple. Il y a une police. Nous avons la police sur glace. Comment ça peut se faire? Moi, ici, à Tikoute, je suis à quelques mètres d'un magasin où on distribue un produit, je mets entre guillemets, parce qu'on me connaît ici, je risque de faire un peu une mauvaise publicité. Il y a un dépôt. Des produits, on va en gros. Devant la porte, s'il vous plaît. Devant la porte, ça n'est que devant la porte, il y a des produits, on va en détail. Mais où se trouve la police? Où se trouvent les personnes qui sont chargées à ça? C'est la manque de responsabilité de nos autorités. C'est simple, que nos autorités puissent prendre leur responsabilité à main. C'est la seule chose que je peux dire. Merci. Je ne peux pas aller très loin, M. Pirot, pour l'intervention d'aujourd'hui.
Merci, Arsène. Vous pensez qu'il faut que les autorités prennent leur responsabilité à main pour réglementer le secteur parce que la loi elle existe déjà. Merci beaucoup. Nous allons au Kasaï occidental dans la ville de Kananga. Théodore, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, c'est Pierrot et bonjour les amis de la radio Capi et surtout les auditeurs.
Nous avons suivi l'introduction de notre invité Michel Somoué qui a présenté ce tableau où les expatriés ont la possibilité d'accéder au crédit, de pouvoir amener ces produits qui sont fabriqués chez eux et de les couler jusqu'à en détail. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans des conditions comme celle-ci pour permettre aux marchands congolais, aux nationaux de pouvoir se retrouver dans cet univers de petits commerces et qu'ils puissent aussi évoluer?
Merci beaucoup. La ville de Kananga présente des particularités. Vous savez que c'est une ville qui est au centre du Congo, qui est totalement enclavée. Le commerce a été toujours fait par pratiquement les originaires ici. Ils parcouraient plus de 1000 km pour arriver au Katanga, plus de 1000 km pour être à Kinshasa afin de ravitailler le marché de Chopulier, la province du Kasaï occidental. Mais avec les problèmes connus par la SNCC, mais aussi des compagnies d'aviation, le commerce vraiment Kasaï occidental est un véritable problème. Mais nous avons remarqué depuis un certain temps les expatriés qui sont venus au Kasaï occidental pour le petit commerce. Des grandes compagnies comme des Bestesco, Offer, des Sim, des Semco, mais toutefois qu'ils vendent et en gros, ils ont développé encore un petit commerce en détail. Vous avez des pièces de toffe, vous avez des boîtes de sardines, ainsi de suite, même des bougies. Il y a eu aussi même ceux qui sont venus pour vendre des petits sachets de liqueurs, de whisky. Donc vous trouvez quand ils viennent délabrer sans moyen, tout ça, quelque temps, et vous le voyez avec des sommes très grosses. Mais les nationaux, les originaires sont abandonnés. Et le commerce, maintenant, le petit commerce est fait par les étrangers. Mmh. Alors maintenant, j'essaie de comparer ailleurs. Je constate que notre pays devait avoir une politique commerciale. Qu'est-ce qui doit être réservé aux étrangers et qu'est-ce qui doit être réservé aux nationaux? Est-ce quand ils viennent, déjà même, quand ils quittent leur pays, ils passent par Kinshasa pour arriver au Kasaï occidental? Est-ce qu'on ne définit pas cette politique commerciale? Qu'est-ce qu'ils viennent réellement faire? Pourquoi certains domaines comme l'agriculture, comme l'industrie, ainsi de suite, on ne peut pas confier à ces gens-là, ces gens de domaine, et on doit les laisser faire des petits commerces et pour même étouffer la volonté locale? Je crois qu'il faut peut-être conseiller à cet homme politique de spécifier bien la politique commerciale dans notre pays, définir qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre pays. Moi, je me dis, par exemple, nous sommes dans une province, agricole. Il faut, quand ils arrivent, par exemple, dire, voilà, si vous allez au Kasaï occidental, allez, par exemple, faire l'agriculture, allez faire l'élevage, ainsi de suite, pas venir vendre les bonbons, pas venir vendre les boîtes de sardines, vendre des petites choses. Ça, c'est, mais alors, quelle est la place qu'on réserve aux nationaux? Madame Pérez, la plupart des difficultés que je vous ai présentées.
Merci, Théodore. Je pensais qu'il faudrait qu'au niveau du pouvoir public, la politique commerciale puisse être bien définie. On peut savoir qui fait quoi, dans quel domaine on peut investir, bien sûr, en tenant compte de la libéralisation du secteur de commerce. Merci beaucoup de ce point de vue des Canadiens de la occidentale. Nous partons en dehors de la RDC. Serge, vous êtes en Chine. Bonjour.
Bonjour.
Nous dégageons dans cette émission Parole aux auditeurs les pistes et des solutions par rapport à l'exercice du petit commerce. Merci de vous joindre à nous, hein, de la RDC. Avant, bien sûr, que vous puissiez donner vos pistes et des solutions, revenons sur le terrain où vous êtes en Chine. Ça peut être aussi une expérience à partager avec les auditeurs congolais en ce qui concerne le petit commerce. Comment est-il organisé sur place en Chine, hein, pour un peu en bref, vous qui vivez dans ces milieux?
Bon, écoutez, la Chine, c'est pratiquement une autre expérience qui est de loin différente de l'expérience, sinon, de ce que nous vivons au Congo, ou bien de ce qui se vit au Congo. Ici, en Chine, il y a une chose. Quand vous êtes en Chine, déjà sur le plan de l'administration, ils sont très avancés. Ils sont très avancés par rapport à nous. Ici, tout est organisé par le pouvoir central d'abord. Alors, pour faire le commerce, vous devez d'abord avoir les visas pour faire le visa pour faire le commerce, bien le visa pour le travail. Alors, vous comprenez que même pour les Chinois eux-mêmes, pour faire un commerce, ou bien pour faire un déplacement d'une ville vers une autre ville, c'est-à-dire dans le cadre des activités commerciales, ils doivent avoir le passeport, ils doivent avoir le visa, c'est-à-dire tout est organisé par le pouvoir central. Alors, vous comprenez que sur le plan de l'administration, ils sont très avancés. Alors, le problème de la RDC aujourd'hui, on doit définir, le gouvernement doit être clair dans sa politique. Ce qui est vrai, c'est que le petit commerce ici en Chine est réservé aux propres Chinois. Le pouvoir même organise des choses d'une manière à décourager les étrangers à venir faire le commerce ici à ce temps. Parce que quand vous, un étranger, vous arrivez ici en Chine pour faire des petits commerces, déjà les conditions que vous allez trouver sur les marchés ne vous permettent pas d'accéder aux différentes activités. C'est-à-dire que il sera très difficile et vous verrez que les conditions qu'on vous met pour que vous puissiez faire du commerce en gros sont beaucoup plus favorables que de faire des commerces en effet. Ce qui revient à dire que le développement, le bien-être ne repose pas uniquement sur la situation actuelle. Il y a un grand problème, c'est de trouver une situation durable par rapport à la situation de la réduction. En conséquence, il convient de s'assurer de la soutenabilité, en fait, de la politique du gouvernement par rapport au petit commerce. Ce qui est vrai, c'est que le petit commerce et contribue de manière considérable à l'économie informelle du pays. Et vous connaissez très bien que l'économie informelle du pays est aussi très importante. On ne peut pas négliger cela. Maintenant, ici en Chine, l'expérience que nous avons vue, on n'a jamais vu un étranger, un Africain, un Européen faire des petits commerces ici. Sinon, à moins que ce soit quelqu'un qui est venu ici, ça fait longtemps, il a changé de nationalité, il n'est plus, il n'a plus de nationalité d'origine. Il est devenu chinois. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il s'est marié à un chinois. Il est intéressé par le pays et il a pris d'autres nationalités. Il a un passeport chinois. Et là, il peut avoir accès facile au marché, au petit commerce.
Merci.
Maintenant, c'est très difficile de changer pour les étrangers qui viennent faire le petit commerce.
Merci, Serge. Vous nous avez appelé de la Chine. Dans votre propos, vous pensez qu'il faudrait que l'État puisse définir une politique claire en matière commerciale, savoir quelles sont les conditions pour exercer tel type ou tel autre type de commerce, que ce soit des gros ou de détail. Merci beaucoup de nous avoir appelé de la Chine. Nous allons terminer cette première partie avec Dio qui est en Boujima et revenir à notre invité. Dio, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Et quelles sont les pistes et les solutions pour vous afin d'accompagner les nationaux dans l'exercice du petit commerce et de leur permettre de s'épanouir, eu égard à tout ce que les autres auditeurs ont évoqué, bien sûr, avant vous dans cette émission?
Oui, pour les pistes de solutions, il faudrait d'abord qu'il y ait un État qui s'assume. Parce que s'il n'y a pas un État qui s'assume, moi je peux bien proposer des pistes de solutions, mais rien ne va être fait dans ce sens. Donc, ce que j'allais dire, il y a votre invité qui l'a dit tout au début de l'émission. Je le félicite. Vraiment. Parce que les exemples sont toujours là. Moi, je vis, par exemple, en Italie, à Milan, le West Africain qui vendent, mais qui sont arrêtés toujours par la police. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas, étant étrangers, avoir des documents pour faire leur petit commerce.
Mmh.
Donc, moi, j'estime, à mon humble avis, que l'État doit s'assumer. Ça, c'est la première de choses. Le Premier ministre les avait reçu. Mmh. Il avait promis pour une décision le lundi qui devait suivre. Mais si je ne m'abuse pas, ce lundi était jour férié. Je ne sais pas dans son calendrier comment il avait fait. Et comme je ne suis pas sur place en ville, je suis loin, je ne sais pas ce qui avait été décidé. Je ne sais pas si votre invité...
Oui, l'invité qui a participé à ça, oui, qui est aussi concerné par ça, il pourra nous donner les pistes de solutions qui ont été
déposées dans cette rencontre. Voilà, c'est
voilà.
Le cas n'existe pas.
Voilà, merci Edo. Vous pensez que c'est de la responsabilité de l'État de pouvoir gérer ces domaines. Nous allons revenir à Michel Somoy qui est de Senapec. Le Senapec qui a participé à la rencontre avec le Premier ministre sur les pistes et les solutions hein, par rapport à l'exercice du petit commerce. 0-81-890-63-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir, mais aussi par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Michel Sommer, nous revenons à vous. Il y a beaucoup de questions. En fait, le point de vue des auditeurs, on a compris leurs inquiétudes, mais aussi les pistes de solutions qui reviennent à une seule chose, c'est la responsabilité de l'État, parce qu'il y a une loi que l'État doit faire appliquer. Mais avant, bien sûr, de commenter les propos des auditeurs et aussi les mesures, parce que vous avez participé, je crois bien, à la rencontre entre le Premier ministre et les secteurs, vous avez évoqué dans à l'introduction, bien sûr, la grande difficulté et du fait que beaucoup de produits qui sont commercialisés, ils sont importés, que ce soit de la fabrication jusqu'à la commercialisation. Bon, les expatriés, on peut dire, ils ont accès au crédit pour venir travailler et dans les domaines. Mais par là qu'il y a un problème de fragilisation de nationaux dans la pratique d'e-commerce, quand bien sûr ils n'ont ni crédit ni moyens de pouvoir soutenir leurs activités et surtout qu'ils n'ont pas des produits qui proviennent d'eux-mêmes pour pouvoir les commercialiser.
Exactement, monsieur journaliste, exactement. Les nationaux se trouvent victimisés, si vous permettez le terme, chaque fois qu'ils essaient de s'engager dans le petit commerce, suivant les règles naturelles du commerce qui sont celles de la concurrence.
Mmh.
Donc quand on s'engage sur un terrain commercial, l'économie libérale pour laquelle nous avons proclamé notre credo exige que vous acceptiez la concurrence. Ça, c'est une réalité.
Mmh.
Et c'est vrai que les plus grands chantres du libéralisme économique estiment que pour une économie encore jeune, il faut un minimum de protectionnisme de la part de l'État en faveur de l'émergence d'une industrie nationale.
Mmh.
C'est très important. Chaque fois qu'il n'y a pas, de la part de l'État, les mesures protectionnistes pour faciliter la création de l'émergence de l'industrie locale, à ce moment-là, on se livre à une sorte de jeu de jungle.
Mmh.
J'ai toujours appelé le jeu des renards libres, des employés libres. Ce que les étrangers font, et ils le font avec la complicité, malheureusement, des hommes au pouvoir. Parce que c'est les hommes au pouvoir qui leur servent de bouclier. Et donc, ils leur donnent la facilité de se comporter comme bon leur semble. Vous avez parlé de la Senapec, de la FEC, de la Copendeco, comme ayant participé à la rencontre avec le Premier ministre pour trouver la solution à ce sujet. Moi, je veux vous dire, pour être franc et sincère, que la Senapec n'a jamais participé à cette rencontre avec le Premier ministre. C'est la FEC qui est allée traiter avec le Premier ministre cette affaire-là, seule la FEC. La FEC n'a pas été, elle a été juste citée à la télévision, j'ai été surtout en de l'entendre citée, mais nous n'avons jamais reçu une invitation du Premier ministre pour participer à cette rencontre. Et si d'ailleurs on avait le souci de l'histoire, on devrait comprendre pourquoi il s'est créé la FENAPEC et plus tard la COPEMECO.
Mmh.
La FENAPEC s'était créée justement à cause de ce conflit permanent entre les expatriés et les Congolais. Un conflit toujours inique, parce que de tous les temps,
les tenants du pouvoir, de tous les temps du grand pouvoir de ce pays, sont toujours plus penchés pour favoriser les étrangers au détriment de son frère congolais. À cause de ces injustices constatées, notamment dans la distribution des devises ou des routes d'échange, je crois qu'il y avait un problème du genre, il y a pénurie des produits alimentaires ou impôts d'importation, il faut donner des devises aux opérateurs économiques, tous regroupés au sein d'une même fédération, et c'est les expatriés qui arrachaient la totalité des devises, au détriment des nationaux. Quand il y a un marché public, et l'État veut conclure un contrat de partenariat pour l'exécution des travaux, par exemple de l'État, pour le marché de fourniture, etc., de biens et services, c'est toujours les étrangers qui bénéficient de ces marchés au détriment des nationaux. C'est à cause de ces injustices que les nationaux, en 1987, avaient pris la décision de se constituer en une corporation professionnelle à part, les laissant au sein de la FEC que les porteurs de mallettes. Parce que si vous regardez au sein de la FEC, la plupart des membres de la FEC qui sont des Congolais, si vous leur demandez leurs entreprises effectives, il n'y en a pas beaucoup, ce sont des entreprises qui sont bien sûr connues. Ce sont des gens qui opèrent au nom ou sous couvert d'entreprises étrangères. Alors, c'est ça. Alors maintenant, cette injustice continue jusqu'à ce jour. Nous avons toujours décrié cela. Parce que tant que les étrangers dominent l'économie nationale, ils vont continuer à dicter la loi d'un libéralisme sauvage dans ce pays, qui est toujours au détriment des nationaux. Alors les nationaux sont obligés à ce moment-là de se livrer à des pratiques immorales dans les exercices du commerce. C'est quoi les pratiques immorales? C'est pas des spéculations sur les prix. Vous arrivez devant votre frère congolais qui vend un produit que vous pouvez trouver facilement chez un chinois. Mais il va vous dire le produit coûte 10 dollars, lorsque chez les chinois, vous pouvez le trouver à 2 dollars. C'est sur le même marché. Mais la rationalité économique veut que vous alliez acheter là où c'est moins cher. Et quand vous allez acheter ce chemin où c'est moins cher à 2 dollars, parce qu'il ne fait pas face au même coût d'interaction que les Congolais, alors à ce moment-là, les Congolais se trouvent brimés, ils se trouvent marginalisés, ils s'énervent et entrent dans la rue.
Oui, Michel Sommoy, vous avez dit au début de votre introduction, vous avez parlé de la volonté, bien sûr, pour les nationaux, de pouvoir mieux faire. Il y en a aussi qui ont des compétences, mais il manque ce problème de l'accès au crédit, accès aux moyens. Mais si nous jetons un coup d'œil dans l'histoire, on sait les stigmates de la zérianisation, n'est-ce pas, avec la responsabilité brusque de nationaux dans la gestion de plusieurs entreprises, et surtout dans les domaines de commerce. Est-ce que cela n'est pas aussi un problème lié aux nationaux eux-mêmes par rapport à la manière dont ils peuvent conduire les affaires, s'ils ont accès au crédit, accès au marché plus facilement, compte tenu de l'expérience de l'histoire?
Ceux qui ont lu mon livre intitulé « La gangrène de l'économie congolaise », c'est un livre dont on a abondamment parlé dans ce pays, dans tous les médias, on a parlé beaucoup de mon livre, là il m'a reçu un prix d'excellence, « La gangrène de l'économie congolaise ». Dans ce livre, j'ai justifié les mesures de la zérianisation. La zérianisation n'était pas du tout une mauvaise mesure, pas du tout. La preuve, c'est qu'avec la crise financière récente, tous les pays occidentaux ont sombré dans les nationalisations d'entreprises. Donc la zérianisation n'était rien d'autre que la nationalisation de l'économie, qui était totalement entre les mains des étrangers. Et Mobutu était à ce moment-là animé par la volonté acharnée de créer une classe moyenne dans ce pays. C'est le combat de la FENAPEC aujourd'hui. Il faut une classe moyenne congolaise. C'était ça le combat de Mobutu. C'est une réalité, on ne peut pas nier l'histoire. Il ne faut pas mettre sur le dos de Mobutu tous les péchés d'Israël. La bonne volonté, la bonne foi était quelque part. Mais dans ce secteur de l'économie, la lutte pour l'indépendance de l'économie nationale et la lutte pour la création de la classe moyenne congolaise. Voilà les piliers de la zérianisation. Mais la zérianisation a été piégée. Piégée pourquoi? À cause des mesures mauvaises qui étaient venues du côté de la Banque centrale, la Banque d'Israël à l'époque, qui est le porte-voix du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ce sont des choses qui sont connues. Je les ai dénoncées abondamment dans mon livre, parce que pendant que l'économie congolaise produisait énormément d'argent, tant que Mobutu avait estimé que le Congo devait entrer dans le club de 10, c'est-à-dire le club de 10 plus grands créanciers du monde, du secteur d'argent, parce qu'on avait des règles de change très importantes. Vous pouvez vous imaginer qu'à ce moment-là, la Banque du Zaïre conseille au gouvernement
de s'engager dans l'endettement extérieur, dans la recherche des ressources étrangères. C'était dit noir sur blanc dans le rapport annuel de la Banque centrale, qui disait qu'il faut que pour que l'économie se développe, on doit nécessairement recourir à ressources étrangères. On doit nécessairement développer un endettement extérieur excessif. C'était dans le rapport annuel de la Banque centrale. Pourquoi? Parce que c'était conseillé par le communauté internationale. Quand vous avez lu les documentaires de Mobutu Wade Zaïre, ça me le dit. Je ne peux pas comprendre que le Fonds monétaire international, qui m'a conseillé de m'endetter, il m'a conseillé de s'endetter par le canal de la Banque du Zaïre. C'était une mesure totalement, c'était totalement stupide.
Voilà,
voilà comment on a sombré. On a été piégé. La communauté internationale a ses fortes voix dans ce pays, qui lui servent de, comment je peux dire, d'alibi pour faire n'importe quel mal. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui sont au gouvernement, qui sont dans l'armée, qui sont dans les grandes fonctions dans ce pays, qui servent aujourd'hui de bouclier aux étrangers. Ils font le petit commerce. C'est eux qui le font. Vous allez vers eux, ils vous disent, on va appeler les généraux. On leur dit d'adhérer sur le petit commerce comme ils le font. Le vice-ministre a rempli ce qui fait l'intérim du ministre de l'Emploi, travail et programme social, Simon Bourou, puis c'est pour ne pas le citer. Après, récemment, une circulaire numéro 19 pour obliger tout le monde qui fait le petit commerce, y compris les étrangers, d'adhérer à une corporation professionnelle et de leur choix. Les Libanais, les Chinois, les familles des Indo-Pakistanais et autres, ils refusent catégoriquement d'adhérer à une corporation professionnelle. Quand vous allez le voir, vous les voir et vous dites, nous avons des organisations professionnelles dans notre pays, dans ce pays-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on désobéit même aux règles dictées par le gouvernement, il faut poser des questions de savoir si encore on a un État.
Voilà, on va revenir à vous. Le temps de côté Gabriel qui est à Isiro, Bosco qui est à Lubumbashi, tout revient. Si on peut les dire ainsi, les propos des uns et des autres à la responsabilité de l'État, à la définition claire de la politique et puis aussi des responsabilités de chacun. Gabriel, vous êtes en ligne, Bosco est à Lubumbashi, nous allons revenir à vous pour intervenir, mais appelez-nous au 081 890 6315, envoyez-nous un mail à pa@radiocapi.net.
C'est parce que Radio Capuine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitant de toutes les provinces, parole aux auditeurs, c'est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapuine.net.
Et les solutions aujourd'hui, c'est par rapport à l'exercice du petit commerce en RDC. Que pensez-vous qui puisse être fait? Quelles mesures doivent être définies pour vous, pour accompagner les nationaux dans l'exercice du petit commerce et pour, bien sûr, les encadrer? Gabriel, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Radio Cap.
Ici, oui, et sur au 100% occidental, on a des petits soucis avec votre ligne, Gabriel. Vous nous entendez bien? On a un problème de ligne avec Gabriel qui va essayer de se repositionner un petit peu. Voilà, là on l'a totalement perdu. Hein. On va aller à Lubumbashi. Bosco, vous êtes sur les antennes, bonjour.
Bonjour Théo.
Vous avez suivi les uns les autres qui vont beaucoup plus interpeller hein, l'État par rapport à sa responsabilité pour encadrer les nationaux dans l'exercice du petit commerce. On vous écoute, Bosco.
Merci pour la parole, Théo. Moi aussi, je vais aller dans le même sens, mais en relevant un point qui est vraiment capital. Je voudrais savoir dans quel, comment est-ce que le gouvernement, l'État congolais, est en train de surveiller l'entrée des expatriés ici au Congo. Ce qui s'est fait ici chez nous au Congo ne se fait jamais dans d'autres pays. Je vais vous donner l'exemple de la Zambie qui est juste à côté de chez nous ici. Ici, à Lubumbashi particulièrement, il y a beaucoup d'expatriés qui ne sont même pas connus par l'État.
Comment vous avez su, Bosco, comment vous avez su qu'ils ne sont pas connus par l'État? Vous travaillez dans les services?
Oui, moi j'ai des amis sénégalais, j'ai des amis camerounais avec qui que je côtoie chaque jour ici. Et j'essaie de leur poser des questions, ce sont des questions pièges, je leur pose,
ça, ils me disent, et je me rends compte qu'ils ne sont même pas contrôlés. Quelqu'un qui est ici depuis 3 ans, le visa qui a déjà pris ça, il était entré ici avec un visa visa de résidence, mais un visa de juste pour quelques jours. Mais non, on lui a donné un visa de 3 mois, mais il a déjà passé 3 ans ici. L'un de mes amis là est en train de faire de vendre des poissons salés, des petits poissons de fréquins, tout ça qu'il va acheter à Salémi, du côté de Katenga. Donc il est déjà englouti, donc confondu au Congolais. Il parle bien Swahili, il parle bien les langues d'ici au Katanga. Alors, moi je voudrais interpeller au ministère des Affaires étrangères et particulièrement au service de migration, c'est de bien veiller. Parce qu'il y a même des Chinois, il y a des Indiens qui entrent par Kumbalesa ici, dans les véhicules remorques. On ne sait même pas qu'ils sont entrés quand ils arrivent ici, ils se retrouvent dans des maisons enfermées par leurs compatriotes qui les ont précédés ici. Et ils ne sortent que la nuit. Ils sortent très tôt le matin pour se retrouver dans un des magasins de leurs compatriotes et ils vendent là-bas. Dans ces magasins-là.
Voilà. Oui, parce que votre problème, vous pensez que le problème, il n'est pas seulement qui touche au petit commerce, tout simplement, mais il faut une globalité dans les contrôles, n'est-ce pas, de mouvements, des expatriés à travers le pays, bien sûr, et cela conduit aussi à savoir ce qu'ils font sur le terrain, comme ceux qui sont dans le petit commerce, hein, c'est ça vraiment votre intervention pour votre interpellation. Merci beaucoup, vous êtes à Lubumbashi. Nous avons perdu Gabriel qui nous avait appelé d'ici en province orientale. Nous allons revenir à Michel Sommet. On a suivi, il y a beaucoup de passion dans ce débat, bien sûr, hein, parce qu'on sait avec les chômages qui frappent le pays, ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans le petit commerce, hein, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir soutenir l'économie des ménages, hein, c'est un peu ça le problème. Mais vous qui encadrez, bien sûr, vous avez la corporation, entre vous et l'État, apparemment on se limite tout ça, à dénoncer. Mais dans ce que vous faites avec l'État, à quel niveau êtes-vous dans la collaboration pour pouvoir trouver des solutions et encadrer ces nationaux? Prenons par exemple les cas de la FENAPEC, parce qu'apparemment, depuis le début de l'émission, les auditeurs ont dénoncé, vous aussi vous avez dénoncé, mais est-ce qu'il n'y a pas de démarche dans ce que vous faites avec votre partenaire qui est l'État pour parvenir à trouver des solutions à ces problèmes et pouvoir encadrer ces nationaux?
Nous avons, au niveau de la SPOL, pour parler de cas précédents, nous avons beaucoup de bonne volonté et beaucoup de patience vis-à-vis de notre État et de notre gouvernement en particulier. Mais il se dit qu'il y a des cas qui vraiment énervent. Cette bonne volonté et se fatigue à un moment donné. Je vais vous donner un exemple concret. Considérant les difficultés qu'il y a dans ce pays pour faciliter l'accès au crédit, pour faciliter les PME d'accéder au crédit dans notre pays, parce que l'État congolais et l'accès vis-à-vis des banques qui sont toutes étrangères. Aucune banque à capital congolais, aucune, sur toutes les 22 banques, excepté la Banque centrale. C'est une chose anormale. Et ces banques étrangères sont libres de faire ce qu'elles veulent faire. Quand elles veulent le faire, elles ne sont soumises à l'ordre de personne. Voilà pourquoi dans ce pays, nous avons un taux d'intérêt de 6% par mois. Ça n'existe nulle part au monde. Ça n'existe, c'est le taux de l'usure des siècles antérieurs. Et qu'on pratique dans ce pays impunément, au vu et au su du temps, qui couvre ce secteur-là. Qu'est-ce que nous avons fait devant toutes ces difficultés? La FENAPEC a conduit une délégation des hommes d'affaires congolais, des PME congolaises, pour répondre à une invitation que nous avons reçue de l'Inde, de la Confédération industrielle indienne. C'est un exemple concret. Et la Confédération industrielle indienne nous a invités à participer à un conclave au terme duquel les PME congolaises allaient construire un partenariat avec les industriels indiens pour permettre à la banque, Exim Bank indienne, de financer les activités économiques au Congo. pour qu'une banque place ses capitaux dans ce pays, il avait exigé comme condition, au lieu de venir au Congo, que la banque ne connaît pas, que les Congolais puissent bénéficier de ces capitaux au travers des partenariats avec les entreprises indiennes.
Mm-hmm.
C'est ce que nous avons fait. Les Congolais ont signé un certain nombre de partenariats avec les entreprises indiennes, mais il y avait une condition, parce que c'est une banque de banque publique. Il fallait d'autre part, du côté du Congo, que l'État congolais lui aussi manifeste un peu de sa bonne volonté en émettant rien qu'une simple lettre de garantie adressée au ministre des Affaires étrangères indien, lequel devait en fait aller à Exim Bank, ainsi permettre à Exim Bank d'effectuer une opération de financement pour n'importe quel montant. C'est bien précis dans le terme de leur contrat. Mais à notre grande surprise, après ce contrat de partenariat, nous avons adressé une lettre au Premier ministre, parce que le ministre des Finances a qui une délégation avec des hommes d'affaires, des membres de la CANAPEX, a demandé audience. Nous avons voulu les recevoir. Alors moi, j'ai écrit directement au Premier ministre pour solliciter du gouvernement cette lettre de garantie en lui présentant les bienfaits de ce partenariat en faveur de l'économie nationale.
Mm-hmm.
À ma grande surprise, je reçois la réponse du ministre des Finances. Celui-là même à qui je n'avais réservé que la copie. Celui qui s'empresse de me répondre pour me dire, la réponse est claire, j'ai la lettre. Non, l'État congolais ne peut pas s'engager dans ce genre d'activité, ne peut plus garantir une opération d'emprunt extérieur parce que les institutions de Bretton Woods nous l'interdisent. Le Fonds monétaire international nous a interdit. Alors moi, je me pose la question, où se trouve le cadre monophèse de la souveraineté de notre pays? Pourquoi mon ministre ne me répond pas en fonction des impératifs du gouvernement lui-même? Il doit me répondre par rapport à la volonté des institutions internationales étrangères. J'ai trouvé ça comme une offense. Et je me suis dit, personnellement blessé, de constater que nous avons des responsables qui sont porte-voix des institutions internationales qui ne peuvent pas vous répondre en fonction des objectifs et des aspirations profondes d'une population, mais qui vous répondent en fonction de la volonté des institutions internationales. Je trouve ça, à mon humble avis, suffisamment offensif à l'égard d'une économie nationale qui veut se construire.
Mm-hmm.
Et donc, bref, ces partenaires, ils sont là, ces amis, ils sont là. Avec toute leur bonne volonté, avec la bonne volonté de leurs partenaires étrangers, qui voulaient venir en toute transparence s'engager dans des projets d'investissement conçus par les Congolais eux-mêmes en fonction des besoins exprimés par des sociétés ou les communautés de base de ce pays. Voilà un cas concret pour dire nous sommes de bonne volonté pour que nous puissions collaborer étroitement avec le gouvernement. Mais nous constatons que nous traitons avec le gouvernement et le gouvernement a ses yeux tournés vers d'autres partenaires plus importants que l'économie nationale.
Voilà, on est avec Alain qui est à Manono, au Séraphin et à Ouvira. On sent là qu'il y a un véritable problème de cassure, n'est-ce pas, de ce partenariat entre les PME et puis d'un côté l'État. Si les deux ne parviennent pas à marcher ensemble, il sera alors difficile de pouvoir sécuriser ceux qui sont dans l'artisanat, ceux qui sont dans la petite hôtellerie, ceux qui sont dans la petite restauration et ceux qui sont même dans tout ce petit commerce. Et dans ces cas, il sera très difficile de pouvoir les sécuriser hein, si on essaie de regarder comment cela est en train d'évoluer. Alain, vous êtes à Manono dans le Katanga, mais déjà, je signale à nos auditeurs que nous avons des petits soucis des liaisons téléphoniques avec vous, hein, ce qui fait qu'on ne parvient pas à vous avoir facilement, et c'est aussi difficile la qualité des interventions sur les antennes, mais nous tentons d'avancer quand même tant mieux que mal. Alain, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, merci aussi à l'invité. Ma préoccupation, j'essaie un peu de pingler dans le même ordre d'idée que mes prédécesseurs. On est tellement dans les difficultés parce que nous sommes en train de faire aussi les petits commerces au niveau de Manon. Nous avons les expatriés, les Indiens qui nous sommes ici. Ils sont venus dans le cadre minier. Cette fois-ci, ils se sont lancés même dans le vente des produits divers ici. Alors, on constate vraiment, on est pénalisé totalement. Vous pouvez comprendre un sac de fromage qui s'achète à Lubumbashi à 24 000. On paye à 5 000 francs de transport. Arrivé à Manon, on fait 29 500. Mais eux sur place, ils mettent à 30 000. Bon, en tout cas, le commerçant, il ne gagne rien.
Alors, le grand problème, c'est que nous proposons comme piste de solution, c'est l'application de la loi. Parce que la politique du petit commerce n'est pas bien définie dans notre pays. Le deuxième problème aussi, c'est le problème de couverture des autorités politico-administratives. Vous voyez que les expatriés sont plus sécurisés. Même pas, donc ils ne peuvent pas avoir peut-être des documents là, des documents fiables qui les permettent d'exercer ces petits commerces. Alors, vous allez constater qu'ils sont plus sécurisés par nos autorités politico-administratives. C'est pourquoi nous proposons quand même à nos autorités qu'ils abandonnent aussi ces habitudes-là, parce que nous voyons, en tout cas avec les autres pays là, à faire le petit commerce, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est la même difficulté que nous sommes en train d'encourir. Donc, ce que nous proposons, c'est l'application réellement, donc définir la politique du petit commerce clairement. Parce qu'on constate que nos députés, alors ils ne font absolument rien. Même les députés sont en train de couvrir ces expatriés à faire ces commerces parce qu'ils gagnent quelque chose dans ces petits commerces.
Voilà. Oui, mais par rapport à la loi, la définition claire du petit commerce, je crois bien que bon, c'est aussi le problème de savoir l'accès même de la population ou de marchands, de vendeurs à cette loi qui définit ce qu'on veut dire, ce qui veut dire petit commerce, qui doit le faire, comment, dans quelles conditions on doit exercer le petit commerce. La loi elle-même, et même l'arrêté interdépartemental de 80, définit clairement cela, mais il reste aussi le problème de savoir comment les pratiquants souterrains peuvent-ils entrer en contact avec cette loi. C'est ça le problème. Merci beaucoup Alain de Manon dans le Katanga. Séraphin, vous êtes à ouvrir au Sud Kivu. Bonjour. Séraphin, vous êtes en ligne, bonjour. Et voilà, on a des petits soucis, comme je venais de vous le dire, hein, par rapport au contact téléphonique. C'est Séraphin qui est à ouvrir, hein, on vient là de le perdre. Hein, nous allons revenir directement à vous, mais en attendant, il y a un autre auditeur qui est en ligne, on l'a perdu aussi, c'est un peu de soucis. Nous revenons à vous directement, Monsieur Michel Somoui. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont revenus sur la politique, définir la politique claire du commerce. Le petit commerce est décrit dans cette loi que j'ai, on ne peut pas lire toute la loi. Peut-être aussi le problème, c'est de savoir si le pratiquant sur le terrain, ils connaissent cette loi. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est dans la révision de ce texte, dans la définition d'une nouvelle politique, mais où le problème se retrouve au niveau où il faut faire appliquer ce qui existe déjà et accompagner cela de la volonté de le faire appliquer même.
Je crois que le problème est plus grave qu'on le pense. Quand on parle d'aujourd'hui, beaucoup demandent l'application de la loi. C'est vrai. Moi aussi, d'ailleurs, je suis de ceux qui plaident pour que la loi soit mise en application. Je suis du point de vue du gouvernement, si j'ai bien compris. Le contre-indit des réunions du gouvernement et des hommes d'affaires. Tout le monde dit qu'il faut qu'on applique la loi. Et je pense qu'à un moment donné, quand on réfléchit de façon plus profonde, on se rendra compte que la loi elle-même, elle est abondamment et normalement piégée. Dans quel sens? Si aujourd'hui, on essaie d'appliquer cette loi à la lettre, pour ne pas être injuste ou illégal, si on applique la loi à la lettre, les commerçants congolais ne seront même pas capables de rendre des services, même pas à 15-10% des services attendus de la part attendus par les consommateurs. Ils ne sauront pas le faire. Ni du point de vue quantitatif, ni du point de vue qualitatif. Du point de vue quantitatif, ça veut dire que aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons comme produit, c'est parce que, justement, ceux qui importent les produits les vendent au détail. Si on leur dit de vendre leurs produits au prix le gros, je crois qu'ils vont réduire sensiblement leur capacité d'importation. Ça, c'est un de deux. Du point de vue qualitatif, ça veut dire que si aujourd'hui, on laisse les Congolais seul maître à bord pour vendre les produits et au prix des dépôts, le commerce de détail, mais ils vont s'amuser à spéculer comme on leur semblera en pratiquant des prix les plus illicites possibles. Pourquoi ils vont le faire? Parce qu'ils n'ont pas d'autre façon d'accéder aux revenus monétaires que de jongler avec les prix. Leur seule façon d'accroître leur stock monétaire, c'est d'accroître les prix. Et c'est ce qu'ils font régulièrement. C'est ce que moi j'ai appelé, dans mon deuxième livre, pour ceux qui le liront, la Banque Centrale dans le dilemme entre prix et inflation, qui est sous presse, j'ai appelé ça la négation. Nous ne souffrons pas de l'inflation dans ce pays, nous souffrons d'une hausse des prix liée à l'insuffisance des moyens monétaires, moyens de paiement.
les gens, pour accroître leur sorte de moyens monétaires, de moyens de paiement, sont obligés de jongler, d'accroître les prix en tentant leur chance de gagner le plus possible. Ça fait que quand vous avez devant un Congolais qui vend, c'est vraiment un petit quelconque, il vous donne un prix qui en réalité est 5 fois plus cher et vous demande de discuter. Quand vous voulez partir, il vous retient pas la chemise. Vous dites, attendez, on peut discuter, on peut s'entendre.
Mm-hmm.
Vous allez finalement acheter le produit au système du prix affiché avant.
Mm-hmm.
Il tente sa chance et vous ne saurez jamais quel est le vrai prix. Parce que ce n'est pas parce qu'il est forcément, c'est pas qu'il est voleur, c'est pas qu'il est de mauvaise foi, bien que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais c'est parce que il se dit, si je ne vends pas de prix, si je ne supporte pas avec le prix, comment j'accéderai au récupérateur pour continuer à acheter si demain le taux d'échange venait à bouger dans un sens ou dans un autre.
Mmh.
Alors il faut anticiper tous ces taux d'échange, il faut anticiper tous les risques possibles et spéculer de façon totalement immorale.
Voilà.
Donc on va sombrer dans l'immoralité économique. Si on n'examine pas ce dossier avec la pleine attention et la plus grande responsabilité possible.
Voilà, on vous garde en ligne pour la conclusion. Le temps d'écouter les deux derniers auditeurs qui n'ont qu'une minute pour intervenir, comme Théodore qui est en Boujima et Senga qui est à Lumbashi. Théodore, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous-même, vous êtes d'ailleurs président d'un syndicat qui défend le marchand sur place en Boujima. Et parce qu'on tente déjà vers la fin de l'émission, en une minute et demie, et pour vous, quelles sont les pistes et les solutions en tant que syndicat de marchand pour pouvoir encadrer le petit commerce en Boujima rapidement, Théodore?
Nos amis expatriés, ils ont des conseillers juridiques. Je sais très bien qu'on n'entend pas le petit commerce effectué à partir de ventes aux marchandises en petite quantité et dans les chiffres d'affaires.
Mm-hmm.
Donc le chiffre d'affaires doit être inférieur à 10 000 dollars. Mais maintenant, pour faire le petit commerce, il faut avoir une patente. Dans cette même loi, dans son article 1er stipule, la dérogation aux dispositions du registre de commerce, l'exercice du petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une patente,
mm-hmm.
dont la condition d'en obtenir est d'être de nationalité congolaise.
Mm-hmm.
Alors, quand on viole, on est en train de violer cette loi. Nous avons la justice n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, il est juste en train de violer cette loi. Il y a une punité. On doit punir, on doit violer la loi.
Mm-hmm.
La loi existe il y a des années et des années. Ici, chez nous, en Bismarck, par exemple, nous sommes en train de souffrir. Il n'y a pas de voie, ni ferroviaire, ni aérienne pour amener les marchandises ici. Mais ils ont le privilège d'amener en grande quantité les marchandises. Ils vendent en même temps en détail, ils sont fabricants, ils sont importateurs, ils font les tout. Voilà un peu ce que nous demandons.
Merci.
Et la justice puisse faire son travail.
Merci
pour finir. Ceux qui violent la loi.
Merci Théodore, la justice de faire son travail pour punir ceux qui violent la loi. Mais vous avez évoqué ce fait qu'eux-mêmes, ils sont fabricants, ils importent, ils transportent jusqu'à la consommation, ce qui vous met, vous, marchand de Boujima, en difficulté. Nous allons terminer avec vous, Senga, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour, M. Perrault.
En une minute, Senga, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner les nationaux en RDC pour l'exercice du petit commerce?
Ok, merci. Moi, je passe directement aux six questions. La première, quand l'État mette sur pied une commission de suivi, qui doit lutter contre l'exécution du petit commerce par les étrangers. Parce que ici, selon la loi, il existe certes, mais il y a toujours un problème de suivi. Deux, que les nationaux aussi qui sont engagés dans le petit commerce se prennent eux-mêmes en charge en dénonçant cette pratique. Aussi, rien ne fait qu'il continue à pousser jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause.
Voilà. Merci, Senga. Une commission de suivi, mais aussi une revendication pour les nationaux. Nous allons revenir à vous, Michel Sommoy. On a 2 minutes et demie pour conclure cette émission. On a suivi les inquiétudes des uns et des autres que nous avons dénoncées. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive pour éviter que demain encore ces nationaux s'élancent dans la rue pour revendiquer, mais du moins qu'ils se retrouvent et qu'ils s'épanouissent dans cet exercice?
Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a seulement quelques mois que le gouvernement, le Premier ministre en particulier plus précisément, avait mis en place une commission de lutte contre la vie.
La vie, c'est oui.
Donc ça veut dire que demain, nous pouvons avoir une autre marche qui sera plus sérieuse. Des petits commerçants ou des commerçants congolais et des classes de consommateurs. Et que les prix vont grimper de façon incontrôlée. Ça peut arriver. Mais ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit, le problème le plus profond qu'on le pense, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse de façon sérieuse, non pas qu'il faut attendre des années pour cela, mais je crois qu'il faut que du côté du ministère de l'économie, d'abord, du côté de la Banque centrale, ou de tous les secteurs du gouvernement qui sont dans les secteurs qui sont chargés des finances et de l'économie, qu'on puisse convoquer une table ronde qui pourra durer 2-3 jours et nous allons donner des pistes de solutions. Primo, à mon avis, la seule piste de solution, la seule chose qui manque dans ce pays essentiellement aujourd'hui, c'est l'organisation de l'économie nationale. Quelles sont les conditions pour un pays d'avoir, de se doter d'une économie nationale dans le contexte de la mondialisation? Comment peut-on défendre la souveraineté économique du pays dans le contexte de la mondialisation? C'est dans le contexte d'interdépendance, voilà. Important. Secondo, et pour ce faire, il faut changer l'ordre des choses. L'économie n'est pas un jeu à frac, pas un jeu de désordre. Okay. Il y a un ordre établi. Il y a quatre secteurs économiques qu'il faut organiser, mais de façon successive, enchaînée. Le premier secteur, c'est le secteur monétaire. Le deuxième secteur, c'est le secteur des biens et des services, parce qu'il dépend du financement.
Dans 20 secondes,
le financement public, parce que de la production vient le paiement des impôts. Et le dernier secteur, c'est le secteur étranger. À ce moment-là, on peut voir qu'il y a un surplus et qu'on peut exporter ou importer. Mais alors, aujourd'hui, chez nous, on a chambardé le corps des choses. On comprend trois secteurs privés et secteurs étrangers. Et l'économie vit en désordre,
voilà,
en faveur à réaliser une certaine mainmise étrangère en permanence.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Sommouet. S'il faudrait une table ronde entre tous les services concernés dans ce secteur pour y mettre de l'ordre, nous vous disons merci. Vous êtes le président, l'administrateur délégué de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Merci à tous les auditeurs qui nous ont servi dans cette émission. On se retrouve demain. Ça sera le 9 août et c'est la journée internationale des populations autochtones. Et la RDC a observé cette journée pour la première fois en 2010. Et dans ce pays, les Pygmées constituent la majorité des populations autochtones. On les retrouve dans 7 des 11 provinces et sur le territoire national à plus de 2 millions de kilomètres carrés. Une seule question pour l'émission de demain. Selon vous, que faut-il faire pour améliorer leurs conditions de vie et les intégrer dans la société congolaise? Soyez nombreux à vous inscrire à pa@antipatrie.net. Merci et au revoir à tous. Oh, that's it.